La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Jean-Christophe Briançon, Boris Pinot et Grégoire Di Fiore, et prise de son assurée ce soir par Yanis Djoudad, réalisation Daniel Finot. Autour de nous ce soir, Marie-Josée Sirache, René Solis, Philippe Chevillier. À notre affiche, la nostalgie des blattes de Pierre Note, Au but de Thomas Bernhard et Agatha de Marguerite Duras, présente également à mes côtés Aïssa Toundoy qui va surveiller en direct le fil Twitter, dispute FC, pour donner à entendre vos commentaires si vous avez peut-être déjà vu ces spectacles qui viennent certes à peine de commencer. Il y aura bien sûr des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour assister à l'événement Dans les yeux de Don DeLillo, rencontre avec l'auteur américain à l'occasion de la sortie en France du roman 0K. Ce sera lundi 18 septembre à 20h30 au Théâtre de la Colline à Paris. Nous ouvrons cette dispute avec le nouveau spectacle du prolifique Pierre Note, en quasi-résidence au Théâtre du Rond-Point. Il est artiste associé, précisons-le, où il propose chaque saison des spectacles qui font souvent la part belle à la musique, une forme d'humour souvent personnel. Une fois n'est pas coutume, je vais lire le début de la note d'intention de Pierre Note, auteur et metteur en scène de la nostalgie des blattes. Les choses seront plus claires ainsi. Il écrit un plateau nu, aucun décor, deux chaises, des sons, 1h10 grand maximum, expérience radicale. Les deux immenses comédiennes ne bougent pas, elles sont assises, elles jouent face publique, côte à côte, elles s'affrontent mais ne bougent pas, lumière de conséquence. Deux femmes, deux vieilles, assises dans une sorte de foire où elles prouveraient au monde qu'on peut aussi vieillir, laisser aller le corps, le visage sans intervention, une sorte de musée de vieilles. C'était l'idée de Catherine Yegel et Tania Torrens, deux femmes assises côte à côte dans une foire aux monstres désertés. Dans un temps futuriste mais proche, elles s'exposent.
J'ai été hyper odieuse.
Vous l'avez fait ordinaire, vite fait, bien fait, plan plan, non. Vous n'y étiez pas du tout.
Moi, je me suis trouvé pas mal.
Mais ça part dans tous les sens. On n'y croit pas. Ce lyrisme.
Ce lyrisme.
Oh, vous en faites tellement dans le pathos. Non, vous l'avez bâclé, c'est tout. Les bâclés, contre Alzheimer.
C'est pas une débutante qui va m'apprendre mon métier.
J'ai été comédienne.
Il est bancal, votre Parkinson.
Il n'est pas du tout bancal, mon Parkinson.
Il est bancal, votre Parkinson. Je vous ai jamais vu à la télévision, je comprends pourquoi.
Vous y avez cru?
J'ai fait semblant, hein.
Menteux.
Mais pour vous faire plaisir, vous auriez pu en faire autant.
Il vous a scotché, mon Parkinson. Vous étiez à deux doigts de vous lever et de me faire une standing ovation.
Oh, 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 vous êtes ringarde comme actrice.
J'étais comédienne. C'était il y a 30 ans.
Mais comme comédienne aussi, vous êtes ringarde, has-been total, avec vos vieux trucs, la vieux genre.
Je comprends pourquoi plus personne ne passe par ici. Ça sent le pourri et la mort du bon goût.
Bon femme,
vieille vache.
Non, à personne.
Vas-y, vous le dites.
Je le dis, je le redis. Vous devriez rentrer chez vous.
Je ne rentrerai pas chez moi.
On meurt à personne.
Mais vous vous en foutez.
Oui, exactement, et vous savez pourquoi.
Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout.
Je capitalise, figurez-vous.
Ça alors.
Je vous assure.
Oh, si. Et donc comment on tombe.
Et si. Elle se fout de ma gueule, hein.
Ça fait combien de temps que vous n'avez eu personne?
Oh.
Et ne me mentez pas.
Quand il débarquait à 60, à vous regarder avec des yeux comme ça, vous imaginez là, face à vous, avec des petits yeux ronds. Il y avait des jours, c'était l'invasion des sauterelles. 60 Chinois descendus de leur car qui découvraient la Lune.
Voilà pour cet extrait de la nostalgie des blattes. À l'heure actuelle, à l'affiche du Théâtre du Rond-Point à Paris, il y aura une grande tournée. Je donnerai évidemment des dates tout à l'heure à partir du printemps du mois de mars. Donc ça va peut concerner beaucoup d'auditrices et d'auditeurs, y compris celles et ceux qui ne passeront pas par Paris dans les prochaines semaines. Marie-Josée Sirage, tiens, pour commencer. Pierre Note, vous levez un peu les yeux au ciel quand je vous donne la parole en premier, Marie-Josée.
Un petit peu, non. Volontiers, je la prends. Écoutez, comment vous dire mes sentiments en sortant de cette pièce? J'étais atterrée, tout simplement atterrée, consternée par la vacuité du propos. On a face à nous deux artistes, deux actrices qui sont quand même des actrices d'importance, et un texte d'un vide abyssal. Où je ne comprends pas de quoi ça me parle, ça ne me raconte aucune histoire. Elle ne parle pas du monde, la pièce ne parle pas du monde, elles subissent le monde, on ne sait même pas cette façon de vouloir jouer de l'intemporalité, le no man's land, l'incertitude, avec des drones qui de temps en temps surgissent, elles se baissent pour éviter d'être touchées, on sent qu'il y a quelque chose de très très terrible qui les attend, mais finalement il ne se passe rien. Je trouve que le décor est aussi pauvre que le propos. Voilà, ça a été pour moi effectivement assez dur ce moment. Je regrette. Alors, Tania Lorenz, je la trouve magnifique. Yegel, c'est une actrice que j'aime énormément. Au printemps dernier, on l'a vue dans Votre Maman de Jean-Claude Grunberg à l'atelier. Elle était époustouflante. Il suffisait qu'elle hausse un sourcil pour qu'on soit totalement pris par son personnage. Là, je trouve qu'elle est trop en force. Et pour moi, voilà, ça a été une grande déconvenue.
Bon, on creusera dans cette déconvenue tout à l'heure, peut-être. René Solis.
Oui, alors moi je comprends très bien ce que dit Marie-Josée. En même temps, deux choses. D'abord, elles y prennent du plaisir, hein, visiblement.
Le
projet vient d'elles. Donc, ces deux vieilles qui se balancent des vacheries pendant 1h10 et des saloperies et des grossièretés. Il y a une sorte de jubilation, voilà, qui éventuellement peut être communicatrice. D'ailleurs, il y a quand même une bonne partie de la salle qui rit, hein, donc de ce point de vue-là, et je crois qu'elles sont assez contentes de s'offrir ce numéro comme ça, cette performance d'actrice, donc les deux vieilles, la vieille actrice et la vieille pute, et voilà. Là où je vous rejoins un peu, Marie-Josée, c'est qu'il y a, enfin, on peut reconnaître à Pierre Note quand même un savoir-faire. Il sait écrire une pièce, il sait écrire des dialogues, il sait avoir des répliques qui font mouche et qui marchent. Hein. On entendait des rires, et il y en a, encore une fois, il faut le reconnaître. Et en même temps, je vous rejoins sur c'est du théâtre qui sonne, comme on dit. Voilà, il y a une sorte de petite musique qu'on entend, et en même temps c'est du théâtre qui effectivement sonne creux, c'est-à-dire que quand on réfléchit un peu à ce qui est dit, on voit bien comment il est malin, il y a quelque chose d'assez habile dans l'écriture, et comment voilà, il y a une bonne dose de Beckett, hein, quand même il y a Les Beaux Jours, il y a tout ça qui est là, donc côté un peu fantastique, un peu absurde, un peu clownesque, un peu terrible, un peu voilà, il y a un peu Dionysco, il y aurait les chaises, et puis, mais il est quand même dans la pas limitation, et donc on s'en rend assez vite compte, et on se rend assez vite compte qu'effectivement ça tient pas complètement le choc.
Très pâle, chuchotez-vous.
Très pâle, absolument.
Ouais, non, je le dis un peu plus fort pour qu'on ne l'aurait pas tout à fait entendu. Philippe Chevillier, alors j'ai lu votre critique dans les Échos paru ce jour.
Donc je suis beaucoup moins sévère.
Mitigé.
Oui, mitigé, mais beaucoup moins sévère. Ce qui est important, moi, je pense, ce que disait René, c'est le désir de ces deux comédiennes, de la Comédie Française, très longtemps, qui sont âgées, mais qui ont une dynamique de vouloir faire un spectacle un peu là-dessus, de dire on est des vieilles dames, mais on marche encore, on assume notre vieillesse, on assume notre âge, et on aimerait bien qu'on nous mette ça en scène. Et donc, Pierre Note, c'est vrai que le problème pour lui, c'est que d'une certaine façon, même s'il a adhéré à ce projet, c'est un spectacle de commande, quelque part. Et donc, il a essayé de faire autre chose que d'habitude. Moi, c'est vrai que je préfère quand il fait des petites comédies musicales un peu grinçantes ou des contes de Noël. Mais je trouve qu'il a quand même réussi à bâtir une comédie un peu post-apocalyptique. Où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marie-Josée, c'est quand même qu'il y a un fond dans l'histoire. Parce que ces deux vieilles femmes sont face à un monde qui est complètement aseptisé, un monde qui est complètement une forme de dictature. Les rebelles ont disparu. Alors on peut dire que c'est tout ça un peu téléphoné, mais à la fin, c'est ces vieilles dames qui vont en se levant, parce qu'il ne se passe pas rien complètement à la fin, en se levant, vont essayer de montrer la rébellion et contre ce monde. Bon, alors tout ça, c'est une thématique peut-être un peu facile. Mais moi, bon, alors j'ai ri à pas mal d'instants. Je les ai quand même trouvées très bonnes. C'est vrai que le personnage de vieille dame indigne qu'incarne Catherine Yeagel, il est un peu trivial, donc elle joue cette trivialité face à elle, face à Tania Torres, qui est plus dans le côté guindé, mais finalement qui se lâche aussi un peu. C'est un peu un spectacle de vieille dame indigne que je trouve moi plutôt réussi, avec cet essai de Pierre Note de faire quelque chose à la Beckett, qui est pas seulement du calcul, je crois qu'il a voulu faire sincèrement, et qui ne marche pour moi qu'à moitié, mais j'ai passé quand même un moment pas désagréable du tout, moi.
Bah, à vous entendre, c'est vrai qu'on se demande quelle est ce que le spectateur, la spectatrice peut avoir de plus en sortant de la salle. Le plus, c'est d'avoir, oui, vu deux grandes comédiennes, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on n'est pas obligé d'adhérer. Chez Catherine Yeagel, à peu près 100% des critiques qu'il adore, quoi qu'elle fasse. Là, pour le coup, il y a un bémol. Marie-Josée Sirach, vous l'adorez, mais vous la suivez pas jusque-là.
Non, j'apprécie beaucoup, mais non, là, effectivement, je trouve qu'elle... Elle joue en force, elle passe en force, et moi, elle ne me touche pas dans ce personnage qu'elle incarne, de manière extrêmement triviale, comme vous le disiez. Mais de quel monde ça parle? Ça ne me raconte rien. On comprend rien à ce monde, on comprend pas d'où ça vient, on comprend pas où ça va. Il y a du faux suspense. Tout est un peu, vous disiez téléphoné, mais même on sent les coutures, on sent beaucoup de choses qui voilà, on devine même ce qui va arriver, donc il y a quelque chose qui va pas dans ce texte là je sais bien que c'est un texte de commande, que c'est pas facile, mais bon sang, on peut y mettre du sens. Il y a eu Bouvard et Pécuchet, on a eu droit à deux vieillards qui ont philosophié, mais là ça ne philosophe pas, là ça dit des banalités sur Méride qui tombe, sur bon, ça va, est-ce qu'on fait une pièce sur la prostate de X ou Y? Non.
Peut-être, non, quand on en fait, mais... On ne va pas les voir.
Oui, voilà, on ne va pas les voir.
Mais à vous entendre aussi, ça aurait pu être, là je vais mettre une référence un peu écrasante, une pièce de guerre d'Edouard Bond, avec ces deux femmes dans un univers qui a l'air assez militaire, surveillé, aseptisé, mais c'est pas tout à fait la même ambiance, René Solis.
On en est quand même loin, oui, alors on est loin des pièces de guerre d'Edouard Bond, on est loin aussi malheureusement...
Mais il y a quelque chose de cet univers-là, d'individus un peu livrés à eux-mêmes, non, d'après ce que j'entends.
Mais... Comment dire, c'est juste esquissé. C'est pas, alors comme il veut pas alourdir, hein, non plus. Il a le souci de la légèreté, on va dire. Mais c'est un souci qui, comme vous disiez, qui est un peu téléphoné. Donc on voit bien qu'il s'amuse, elle s'amuse. Ils sont là pour être en roue libre. Mais il manque une tenue de l'écriture quand même. Il manque, vous parliez de, on pourrait parler les dialogues de Dubillard, qui sont très le modèle absolu de qu'est-ce que c'est qu'une écriture théâtrale extrêmement tenue et en même temps d'une efficacité redoutable. Là, il est efficace, mais c'est une efficacité qui est un peu en toc.
En toc, Philippe Chevillier.
Sur ces précédents spectacles, donc celui de Noël, là, et puis sur les cendres en avant, moi j'avais beaucoup aimé. Pierre Note, il sait faire des spectacles sur la famille. Encore une fois, il est parti dans une abstraction. Une forme d'abstraction, c'est un peu un exercice de style aussi, et en même temps ça se veut quand même une comédie. Je crois que le choc entre la comédie qui peut faire rire, je trouve qu'il y a quand même ce qui est réussi quand même, c'est le côté gonflé d'aborder tous les côtés de la vieillesse sans que ça soit justement vulgaire. Je trouve que c'est pas vulgaire, et en même temps quand il veut tirer la pièce vers ce que vous disiez, ça, bah, René a cité beaucoup d'auteurs, et c'est vrai, et puis Bond, je pense qu'il a pensé à tout ça, et c'est sûr que c'est, on n'est pas de ce niveau-là, bien sûr, mais moi j'ai passé un moment, encore une fois, à la fois un peu troublé par ces deux femmes qui voulaient assumer ce côté vieille comédienne qui vous titille et qui vous embête avec leurs rides et avec et de dire, c'est finalement, nous on est plus jeunes dans notre tête, que c'est un peu ça aussi, et moi c'est pour ça que j'étais pas en colère comme Marie-Josée.
Une proposition de lecture via Twitter, Aïssa Tundoy.
Oui, un message de Spectatif. Je le cite, rire de l'anti-vieillesse cosmétisée, la réalité devient ridicule. L'art du théâtre chez Note est de nous la montrer absurde.
Ouais, la réalité ridicule, la réalité devient absurde. Bon, mais est-ce que c'est, non, mais est-ce que c'est que ça? Parce que ce, pourquoi pas? C'est une façon de montrer le monde, d'aller contre ces comédiennes qui ne sont pas, c'est pas le cas de Catherine Hegel et de Tania Torrens, qui doivent lutter artificiellement contre les ravages du temps pour continuer à être employées sur les plateaux. Enfin, il y a des choses comme ça quand même qui se disent dans ce spectacle, de cet ordre-là.
C'est très dans l'air du temps, de maintenant oui. assumer son âge, ses rides, aller contre la loi du Botox et des femmes au sourire figé, et tant mieux, et heureusement. Et nous sommes majoritaires, les femmes, à ne pas céder à ces sirènes-là de la mode sur papier glacé. Encore faut-il alimenter le propos par du sens et du contenu. Or, je trouve que ça s'épuise très vite, très vite. Donc ça tourne en rond pour moi.
Dernier mot, René Solis.
Non, moi je serais plutôt du côté de Marie-Josée quand même dans cette histoire. Je trouve que c'est quand même un peu faible, quoi, tout simplement.
Philippe Chevillier, pour conclure.
La dimension absurde de la comédie, qui est une comédie légère et en même temps grinçante, moi je maintiens que je trouve ça pas mal.
Voilà. Bon, la nostalgie des Blattes de Pierre Note, c'est jusqu'au 8 octobre au Théâtre du Rond-Point à Paris. Il y aura d'autres dates plus tard dans la saison. Du 13 au 20 mars à la Comédie de Picardie, c'est à Amiens. 21 et 22 mars à la Comédie de Caen, Centre Dramatique National de Normandie. 23 et 24 mars au Théâtre Montansier de Versailles. Du 27 au 29 mars à la Comédie de Saint-Étienne, le CDM de Saint-Étienne. 30 mars au Théâtre Municipal de Sens. 10 et 11 avril au Théâtre de Suresnes, Jean Villard. 12 avril, Théâtre Jacques Coeur à Latte. Et 19 avril, Pont des Arts à Cesson-Sévigné. Voilà pour ces dates de la tournée, pour l'instant celle qu'on a, de la nostalgie des Blattes de Pierre Note. À suivre la dispute. Alors, d'autres auteurs, un peu plus, qui ont fait quelques preuves, Thomas Bernhard et Marguerite Duras. Si vous avez là encore des avis à partager, n'hésitez pas à le faire en suivant le fil Twitter Dispute FC.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Le deuxième spectacle à l'affiche de cette dispute, spectacle vivant ce soir, Au but, de Thomas Bernhard, mise en scène Christophe Perton au Théâtre du Poche Montparnasse, une pièce assez peu montée de l'auteur autrichien qui va nous faire rencontrer une mère et sa fille qui sont allées au théâtre. Elles ont un abonnement, c'est devenu une habitude d'aller au théâtre. Elles ont vu la pièce d'un jeune auteur dramatique. La pièce s'appelle « Sauf qui peut ». La pièce est un triomphe. Elle a inspiré, on va dire, des sentiments assez différents à ces deux spectatrices-là. La mère a pourtant décidé d'inviter l'auteur dramatique à passer quelques jours avec elle et avec sa fille, donc dans leur maison du bord de mer.
Je ne sais rien de notre auteur dramatique. Est-il de la campagne ou de la ville ? Je ne sais absolument rien. Je ne connais pas du tout cet homme et je dis, venez donc avec nous à la mer à Katwijk.
C'est un homme de la ville.
D'Amsterdam ?
Non, de Rotterdam.
De parents pauvres, probablement.
Son père était sur un bateau de pêche.
Comment devient-on auteur dramatique ? Question idiote, comme si je demandais comment on devient vieux. Alors, il a aussi le sens de la musique ?
Oui, il l'a, il a joué du violon.
Il a joué du violon, tout le monde a joué du violon. Rotterdam n'est pas un mauvais terrain, j'en connais plusieurs qui sont de Rotterdam et qui ont fait quelque chose.
Il est parti très tôt de Rotterdam.
Qu'est-ce qu'il a fait comme études ?
Je ne sais pas.
Des études de théâtre, probablement. On peut faire des études de théâtre ? L'art de la dramaturgie, je ne sais pas.
Il a vécu quelque temps d'une bourse, mais je ne sais pas quelle sorte de bourse.
Une bourse de théâtre. On va trouver un poète célèbre et on lui demande de vous apprendre à écrire une pièce de théâtre. Absurde. On va au théâtre et on regarde comment le théâtre se fait. C'est absurde. Personne ne sait comment on devient auteur dramatique. Vous pourrez peut-être me l'expliquer, me le dire. Ce sont ces pièces qui démolissent tout, qui mettent tout à bas jusqu'à ce que tout soit démoli. L'homme entre et dès le premier mot qu'il prononce, il se condamne à mort. Et la femme à qui il parle, il l'entraîne avec lui. Tout est si impitoyable. Tout converge vers la catastrophe. Tous causent leur propre perte en mettant tout en jeu pour se sauver. Ils sont assis là et causent leur propre perte. Ils s'aiment et se haïssent. Ils courent à leur perte. Il n'y a pas d'issue. Penses-tu que la vie est comme le théâtre ?
Voilà une question. Une des nombreuses questions de cette pièce au but, Thomas Bernard, en ce moment, aux Poches Montparnasse. René Solis, vous ouvrez cette dispute?
Oui, alors volontiers, parce que là, quand même, l'extrait qu'on a entendu donnera peut-être envie aux auditeurs d'aller voir, d'aller écouter Dominique Valadier, parce que le sens de la musique, comme elle disait, elle l'a, et c'est même... Enfin, c'est presque magistral, en tout cas la première heure. Alors, on pourra peut-être des réserves sur la deuxième heure du spectacle.
La première heure 20.
La première heure 20, on va dire ça. C'est l'heure où elle soliloque, hein, comme d'habitude chez Thomas Bernard, donc personnage de qui soliloque. Alors, remarquez quand même que chez Thomas Bernard, c'est très souvent des hommes, et que d'ailleurs on a dû, je pense, lui faire remarquer, et donc du coup il en a écrit comme ça, au moins deux, hein. il y a la place des héros, si je me souviens bien, qui commence aussi par un grand soliloque féminin.
Il y en a deux dans le spectacle.
Et puis il y a donc au but. Elle est géniale, Valadier. Enfin, elle est au-delà de ça. Elle est extraordinaire parce qu'elle a tout. Elle a le rythme. Elle a la folie complète. Alors la vieille actrice indigne, là, elle est là et elle est pas en toc, celle-là. Pas du tout. Et donc elle est tout simplement époustouflante. Elle est très très drôle. Elle est formidablement drôle. Elle est formidablement inquiétante. Elle est folle, elle est en même temps d'une précision. Donc à la fois, on est complètement emporté et par son personnage et par la justesse avec laquelle elle joue ce personnage. Elle est une sorte de démonstration, mais qui est jamais, qui est pas du tout du cabotinage, absolument pas. Elle est comme ça, partie dans 1h20, formidable, avec le personnage, comme très souvent là aussi chez Thomas Bernard, d'un faire-valoir à peu près muet de la fille. Le décor est plutôt très bien, donc pendant 1h20, on prépare les bagages pour partir dans la maison au bord de la mer, et donc la fille n'arrête pas de plier, mettre dans une malle, une grande malle en osier, et elle arrive à faire ça en 1h20. Et en fait, on se rend compte quand on la regarde, et ça a été très bien travaillé, qu'elle n'arrête pas de plier, déplier, replier, et du coup cette valise est interminable. Elle on a l'impression que ça n'en finit pas, et ça se répète, et tout ça est plutôt vraiment extrêmement bien tenu. J'arrête là pour le moment, et puis on verra
la deuxième partie. Mais je voudrais quand même souligner que tous les adjectifs que vous avez employés pour Dominique Valadier, alors je les partage, mais je les mettrai aussi sur le texte de Thomas Bernard, parce que génial, drôle, fou, qui nous emporte, extrêmement précis. Voilà, je cite de mémoire quelques-uns des mots que vous avez employés. René Solis, il s'applique ô combien à ce texte dont on se demande... Alors, on se demande pourquoi il n'est pas si souvent monté, mais en même temps, comme il faut quelqu'un, une interprète du niveau de Dominique Valadier, on comprend pourquoi ça n'est pas si souvent monté, parce qu'on irait vers une catastrophe. Je développerai dans un instant. Philippe Chevillier, sur Au but.
Oui, c'est un rôle monstrueux de monstre. Et Dominique Valadier, moi aussi, j'étais absolument emballé. Je pense qu'à chaque fois, on a l'impression qu'elle monte d'un cran. Et dans cette façon, face à un texte qui... C'est vrai que c'est pratiquement un monologue. Et en plus, que les passages qui ne sont pas dits par elle, c'est-à-dire qui sont dits par l'auteur ou par lui, sont nettement en dessous et à la limite... même un peu faible sur la fin. Donc elle est extraordinaire. Elle a cette façon d'avoir le sens des mots, le rythme des mots, de couper les phrases où on s'y attend pas. Mais en fait, c'est pour annoncer un peu l'idée qui suit ou rester sur l'idée précédente. Elle a une façon de jouer avec le texte et la pensée de l'auteur qui est formidable. Et puis après, c'est stupéfiant parce qu'on est à la fois, on rit quand même très souvent, et en même temps c'est assez affreux, puisque on a l'impression que dans cette destruction au fond du théâtre, on se dit souvent que le théâtre ça peut sauver le monde, mais alors là, l'auteur dramatique, le théâtre ça sert à rien, même Shakespeare d'ailleurs ça sert plus à rien. Donc on est dans cette absurdité du monde où même l'art ça sert à rien. Et ce qui est fascinant, c'est de voir ce personnage féminin qui est à la fois Thomas Bernard et un anti-Thomas Bernard. Et le jeune auteur qui est censé être Thomas Bernard en face, il n'a vraiment pas les moyens de se défendre. Donc c'est très ambigu. Et en même temps, on sent bien qu'il y a cette humanité qui passe peut-être par la fille, peut-être par ce personnage un peu falot, mais qu'il essaie de lutter justement contre ce cynisme du personnage, du monde. Et que par moments, d'ailleurs, elle a quelques moments d'humanité, d'ailleurs, qu'elle joue formidablement. Donc voilà, on pourrait délirer sur son jeu. Moi, j'ai été pris pendant même l'1h55, malgré un peu la chaleur, parce que c'est un peu chaud. Et le fait qu'on était dans une petite salle comme ça, mais c'est bien d'être dans une petite salle pour théâtre de poche pour ressentir ce genre de texte.
Oui, on a la chance d'une proximité, pour le coup, tout à fait réelle avec les interprètes. Marie-Josée Sirage sur Au But.
C'est une pièce d'une cruauté absolue, d'une intelligence redoutable et d'une lucidité effrayante. C'est magnifique, on est totalement emporté par le propos. C'est un très long monologue, c'est une mère monstre qui monopolise la parole, qui vampirise la vie de sa fille, qui ne cesse de parler, de questionner le théâtre, le sens du théâtre. Qu'est-ce qu'auteur dramatique? Qu'est-ce qu'une pièce à succès? Qu'est-ce que le public? Le bon et le mauvais goût, elle a des certitudes sur tout, et on entend, elle fait souvent référence au flux et au reflux de cette mer, de cette station balnéaire Kajvik, où elle se rend imperturbablement chaque année, en faisant et défaisant ces mâles qui n'en finissent pas de se remplir dans un ordre absolument identique, puisqu'on met les manteaux lourds au fond et puis les chemisiers tout en haut pour ne pas les froisser. Et dans ce long monologue où elle préempte tout, la parole de sa fille qui est mutique, donc c'est vrai que dans Place des grands hommes, il y a aussi
Place des héros, il y a aussi le
rôle mutique de la domestique dans la première partie. Sa fille est mutique, mais tous les autres, quand bien même ils tentent d'esquisser un mot, ils peuvent à peine parler puisqu'elle reprend, systématiquement la parole, et quitte à se contredire, mais elle arrive toujours à retomber sur ses pattes. Et après, je vais rien rajouter de plus que ce que vous avez dit sur Dominique Valadier, parce qu'elle est exceptionnelle, elle est grandiose dans cet espace confiné, tout petit, qui installe un rapport public-acteur, une proximité extraordinaire. On éprouve son souffle, on l'entend, on l'épie au moindre geste, et je trouve qu'elle a une distance, et en même temps elle est complètement dans ce rôle-là, elle est totalement... elle est cette mère, mais jusqu'au bout de ses ongles. Enfin, c'est assez magnifique ce qu'elle nous montre.
Alors, peut-être quelques ajouts et précisions. On dirait qu'effectivement c'est la petite salle de théâtre de poche, c'est pour dire, donc celle qui est en sous-sol, petit espace, tout petit plateau, donc effectivement le travail de scénographie doit être extrêmement précis. C'est Christophe Berton lui-même, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, qui signe ses scénographies, oui, avec Barbara Creutz-Paciodi. Donc voilà, petit espace, il n'y a pas vraiment la moyen de faire beaucoup d'autres choses sur un aussi petit plateau. Je me demande si c'est pas ici la meilleure pièce de théâtre de Thomas Bernhard. Moi, je préfère beaucoup ses romans et récits, j'ai déjà dit. Son théâtre est souvent, pour moi, moins fort, moins virulent, moins acéré, alors qu'ici, il l'est de bout en bout. C'est ça qui est aussi assez étonnant. Certes, même s'il fait très froid à Paris, dans cette petite salle, on a très chaud. On se dit au début, mais comment on va tenir 2 heures dans cette salle? On va défaillir. Mais on est tellement happé par chaque instant du texte que c'est tout à fait prodigieux. Parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, Marie-Josée Sirage, il est question de beaucoup, beaucoup de choses différentes dans ce long texte, dans ce très long, presque monologue de cette mère monstrueuse. Ça passe aussi par un portrait de son défunt mari absolument terrifiant, le propriétaire de la fonderie, un mot qui va revenir, comme les mots aiment à revenir sous la plume de Thomas Bernhard assez régulièrement. Et je suis là aussi en accord avec vous, René Solis, pour dire qu'il y a quand même aussi beaucoup de finesse, d'intelligence dans la mise en scène de Christophe Berton, parce qu'on se dit, quelle place a un metteur en scène dans un quasi-monologue, sur, on va dire, 2/3 du spectacle, dans un espace aussi réduit? Bah justement, il faut cette finesse, et vous le pointiez aussi, Marie-Josée et Philippe, la durée précise de ce pliage, dépliage, remplissage des mâles. Moi, je veux dire que Léna Bréban, qui joue la fille, arrive à exister quand même, alors qu'elle a quelques mots, mais vraiment, ça peut être un mot par-ci, une demi-phrase par-là, pendant en tout cas la première heure et 20 minutes du spectacle, et qu'exister avec un rôle si infime, si ténu, à côté de Dominique Valadier sur un plateau, il faut le faire, donc saluons-la aussi, parce que c'est quand même pas facile d'exister là-dessus. Comme on cite les autres, c'est Yannick Morzel qui joue l'auteur dramatique, et puis il y a Manuela Beltran qui est la domestique. On pourrait dire que tout est bien qui finit bien, dans ce spectacle, c'est la phrase leitmotiv de ce mari. Mais tout est mal qui finit mal chez Thomas Bernard, c'est pas nouveau, René Solis.
Oui, oui, absolument. Et quand même dire, parce que il y a un moment où cette mécanique implacable, terrible et magnifique s'enraye dans la deuxième partie. Alors c'est pas la faute forcément tellement du jeune.
C'est l'arrivée de l'auteur
dramatique,
donc
Yannick Morzel, qui est tout jeune, qui sort sans doute à peine de l'école et se retrouver face à Valadier, c'est effectivement une grosse responsabilité. Le problème, c'est que ce rôle du jeune auteur, qui est une espèce de monstre en devenir, en fait, ce sera lui le monstre dans 30 ans. Et pour le moment, le rôle du monstre est accaparé par la femme qu'il a invitée dans sa maison. Et en même temps, ce rôle d'auteur dramatique, elle continue à soliloquer, mais quand même, il intervient beaucoup plus. Donc, il a une part du texte plus importante. Et il a du mal à exister vis-à-vis d'elle. Et surtout, il y a quelque chose de la musique, du rythme, du spectacle, qui tout d'un coup, c'est un peu comme si vous avez eu une immense soliste qui a joué du piano merveilleusement pendant une heure, et puis arrive le moment du duo avec le violon, et on se rend compte quand le violon commence à jouer qu'il connaît les notes et il sait en jouer, mais il n'est pas du tout au même niveau. Et à ce moment-là, je trouve que le spectacle commence à se déséquilibrer un peu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'enraye, effectivement, et on se rend compte à quel point c'est difficile, d'ailleurs, et à quel point il faut être très, très, très fort pour arriver à jouer du Thomas Bernard et à le jouer comme ça. Et encore une fois, ça met pas en cause son talent d'acteur en devenir. Je pense que c'est pas le problème. C'est juste que c'est vraiment très difficile et qu'on lui demande de jouer quelque chose qui est très difficile. Mais je dirais aussi.
Mais juste sur ce point-là, et je vous redonne la parole, René, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas la volonté de Thomas Bernard? Est-ce qu'il a pas envie de sacrifier l'auteur dramatique dans le texte? Est-ce que le texte qu'il lui donne n'est pas forcément très en dessous par rapport à celui de la mère?
Moi, je pense
que la perversité de l'auteur va jusque-là, de l'auteur Thomas Bernard.
Je me suis posé la question, mais en même temps, on se rend compte ce qu'on disait sur que le personnage de la fille qui a très peu à dire, elle arrive. Elle a existé. Donc je crois
qu'il y a une relation.
Je crois qu'il n'a pas trouvé quand même et que là-dessus peut-être il n'a pas été si aidé. Et alors l'autre chose.
Attendez, je crois que vos camarades ont envie de réagir sur ce premier point. Moi, je crois que le rôle de la fille il est très court, mais beaucoup plus intense parce qu'il y a 30 et 40 années de vécu et qu'ils sont dans chacun des demi-mots de la jeune fille, alors que l'auteur dramatique il rencontre face à lui un monstre qu'il ne reconnaît pas comme tel. Marie-Josée, sur ce point.
Oui, absolument, parce que le rapport mère-fille existe depuis plus de 30 ans et elles se sont mortellement habituées l'une à l'autre, comme le dit la mère à un moment donné. Alors que l'auteur dramatique débarque et c'est l'intrusion d'un tiers dans ce couple mère-fille, qui est un couple bourreau, esclave, maître-esclave, totalement déséquilibré, et dont on pourrait penser qu'effectivement, il serait le grain de sable qui ferait gripper cette machine. Or, Thomas Bernard ne lui laisse aucune chance. C'est-à-dire que ce jeune garçon tente de répondre, de tenir un peu la dragée haute face à cette mère qu'il sent assez omnipuissante. Et finalement, elle le jauge, elle le teste et c'est elle qui reprend la main. Je crois qu'elle garde le pouvoir.
Philippe Chevillé, sur ce point.
J'ai entendu ce que disaient René et Marie-Josée. Je pense qu'il y a un problème quand même de direction d'acteur à ce niveau-là. Mm-hmm. Parce que lui, je pense qu'il est très juste, ce comédien, mais que justement un petit soupçon d'arrogance et quelque chose d'inquiétant en plus lui aurait donné, il serait effondré tout autant face à Valadier. Mais là, c'est juste le jeune homme un peu plein d'enthousiasme, malheureux. Et il n'est pas assez inquiétant. Et du coup, la machine à ce moment-là tourne peut-être un petit peu à vide. D'autant que c'est une situation, ce qu'on disait, un peu bâtarde. C'est-à-dire que la fille, elle a très peu de répliques. Donc c'est peut-être plus cinglant, c'est plus facile à jouer d'une certaine façon quand elle se rebelle un peu. Alors que lui, il en a un peu plus sans en avoir vraiment suffisamment. C'est pour ça que la fin de la pièce, pour ça que ce n'est pas forcément ma pièce préférée.
René, deuxième point.
Oui, donc je suis un peu d'accord sur. Je pense que c'est effectivement peut-être un problème de direction d'acteur. Je crois que là, il y a un bémol sur la mise en scène. Non, le deuxième point, c'est que effectivement, ça marche dans l'intime et puis être à côté d'une comédienne pareille, on partage, il y a une promiscuité formidable et on entend ça d'autant mieux. Et la pièce. Elle se déploie quand même dans la deuxième partie. Il y a ce bord de mer. Et je trouve qu'à ce moment-là, ce décor extrêmement confiné, il manque quelque chose d'une d'un plateau, de quelque chose qui se déploierait. C'est-à-dire qu'on on passe de l'appartement dans la première partie à la maison du bord de mer dans la deuxième. Or, on reste dans ce même espace et cet espace qui est totalement étouffant. Certes, tout ce qui est dit et tout cet univers est atrocement étouffant, mais je pense que ça mériterait quand même un plateau un peu plus grand.
Oui, il pourrait faire sur un grand plateau. Là, il n'y peut rien, Christophe Berton.
Voilà, il est un peu obligé, il est contraint quand même par son plateau.
Il est vraiment contre le mur du fond, là.
Oui,
là,
il est, et ça supporte évidemment quand même un plus grand plateau.
Philippe Chevillier.
En revanche, c'est pas faux, mais c'est vrai qu'on ne peut pas trop...
On ne peut pas poser les murs davantage. Ouais.
Voilà. Et ce que je trouve, alors, pour le coup, très réussi, parce qu'en ayant vu beaucoup de spectacles au théâtre de poche, c'est le niveau des voix. C'est-à-dire que souvent, les comédiens arrivent et ils ont envie de se faire entendre. Ils sont pas forcément habitués à ces petites salles, y compris la grande qui est pas très grande non plus. Et du coup, ils ont tendance à parler très fort et à jouer très fort. Et là, ça joue pas trop fort, ça joue juste ce qu'il faut pour l'espace. Et ça, c'est quand même, faut quand même le noter.
Marie-Joëlle Sirage.
Sur le décor, moi, je trouve que j'étais assez séduite par ce rideau qui s'ouvre, blanc, qui vole au gré du vent, et puis finalement cette image de plage un peu triste, un peu austère, avec des blocs de béton qui sont posés là par le flux et le reflux. Je trouvais que ça donnait de la profondeur de champ, ça nous permettait à nous de nous évader et d'imaginer ce paysage qui n'est pas un paysage de carte postale, mais qui est un passage obligé de leurs vacances annuelles à la mer.
Alors certes, l'émission s'appelle La Dispute, donc on a un peu de visée autour de cette deuxième partie qui est peut-être moins forte, mais quand même je tiens à redire, et on verra si vous êtes d'accord, que c'est quand même une soirée prodigieuse que de voir Dominique Valadier, d'entendre ce texte de Thomas Bernhardt, même si nous avons eu peut-être quelques réserves les uns et les autres sur certains points. On est d'accord qu'il faut absolument y aller, René Solis.
Elle est formidable.
C'est magnifique.
Elle est plus que formidable. Elle est, voilà, des comédiennes de ce niveau-là et à ce niveau-là, parce que c'est rare. Donc oui, bien sûr, j'espère qu'on aura donné envie aux auditeurs d'aller
bien
l'écouter.
Philippe Chevillier.
Non, maintenant, Thomas Bernhardt est une femme. Voilà pour moi.
Ah, ça c'est un
mais
scoop.
Il est peut-être là, son double. C'est le jeune auteur et la mère.
Ah, ça, c'est certainement cette méchanceté qui est là. Et cet humour aussi. Hein. C'est vrai qu'on le dit très souvent, et je l'ai souvent dit, beaucoup de metteurs en scène ratent la dimension comique de Thomas Bernhardt. Là, on a toutes les dimensions, on a l'extrême perversité, la cruauté, et aussi une forme d'ingénuité, de candeur, de douceur, bizarrement, dans cette monstruosité. Enfin, on a tous les niveaux de lecture sont là, donc au but, que c'est bien clair, on les rappelle toutes les semaines, parce que ça joue jusqu'au 5 novembre. Alors certes, la salle n'est pas grande, mais tout de même. Thomas Bernhardt, mise en scène Christophe Berton, je ne l'ai pas dit, c'est extrêmement important, c'est la traduction de Claude Porcel qui est utilisée pour cette production, et c'est une traduction qui respecte magnifiquement la musique de Thomas Bernhardt, et Dieu sait que c'est une musique qui compte. C'est jusqu'au 5 novembre au Théâtre de Poche, et sachez que mercredi soir, Marie Richeux, dans sa nouvelle émission, au bel horaire de 21h, recevra Dominique Valadier. Donc soyez aussi à l'écoute mercredi soir à 21h sur France Culture.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute du lundi soir consacrée au spectacle vivant, là c'est une pièce qui, elle, est très souvent à l'affiche, pour le meilleur et souvent pour le pire. C'est Agatha de Marguerite Duras, ici mise en scène par Hans-Peter Klaus au Café de la Danse. C'est une pièce qui a été publiée en 1981 aux éditions de Minuit. Un frère, une sœur qui se retrouvent, là encore, une maison d'enfance. C'est le départ définitif d'Agatha, normalement, avec un homme. Et entre eux, un amour infini, indestructible, ou, comme le dit Duras, il s'agit d'un amour qui ne se terminera jamais, qui ne connaîtra aucune résolution, qui n'est pas vécu, qui est invivable, qui est maudit et qui se tient dans la sécurisation de la malédiction. Ça, ce sera pour l'extrait, parce qu'il n'y a pas d'extrait de cette production à faire entendre à nos auditrices et auditeurs. C'est pourquoi je vous donne, Philippe Chevillier, tout de suite la parole. D'abord, peut-être Hans-Peter Klaus. On ne le voit plus si souvent. Il faut quand même rappeler... C'est un metteur en scène important de ces... De ces combien, René Solis, vous qui avez peut-être un peu plus d'expérience théâtre que nous, de quoi
Non, de ça ces fait 30 et quelques dernières années,
on va dire ça comme ça. Hans-Peter Klaus, Agatha, Marguerite Duras, Philippe Chevillier.
Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de spectacle de théâtre de lui, en tout cas bah en oui. France. Je crois qu'il n'en a pas fait beaucoup depuis...
Depuis un certain nombre d'années aussi. Je vais chercher, tiens, pendant ce temps.
Face à Agatha, donc très belle pièce. En même temps, c'est toujours très difficile, je trouve, moi, de monter Duras avec ce double enjeu qui est d'éviter le côté éthéré, un peu voilà, évanescent, ou le côté boulevard chic. Alors avec Hans-Peter Klaus, il n'y a pas trop de risque de ce côté-là parce qu'il... prend la pièce et il veut en faire autre chose. On comprend, je crois comprendre une fascination pour ce désir interdit, pour la jeunesse, pour cette histoire d'enfants, de méchants enfants. Et donc il nous fait, alors, je pense, une sorte de déconstruction à base d'abord d'une pantomime un peu enfantine, puisqu'on retrouve le baigneur, on retrouve à un moment donné le frère revient dans une petite robe rose, un tutu plus ou moins, il se met un petit nez clown, il y a toutes ces références aux jeux d'enfants. On a l'impression aussi que, peut-être parce qu'il n'a pas fait de mise en scène depuis longtemps, il veut mettre beaucoup de choses. Alors il y a des projections de guerre, des projections d'eau, parce que oui, le personnage qui sombre, etc. Il y a des micros, ça bouge énormément. C'est un peu... Alors, chez Mathias Langhoff, moi j'aimais beaucoup ces déconstructions des pièces. Ici, je trouve que ça tourne un peu à vide et qu'on n'entend pas beaucoup Duras. Alors, et l'autre problème que je trouve gênant dans cette mise en scène, c'est la direction d'acteur, où il a à la fois, pour le personnage de la sœur, hein, il a choisi une direction d'acteur. Elle a un jeu finalement assez classique, assez durassien comme on pourrait l'imaginer, avec un peu distancé. Et pour le frère, lui au contraire, c'est un acteur qui est plein d'enthousiasme et qui joue. Alors je dirais pas qu'il surjoue, il joue tout le temps, il joue tout et très très vite, très rapidement, avec une frénésie. Et du coup, on a alors je comprends que le jeune frère, ça soit celui qui ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, qui soit impatient, etc. Mais du coup, c'est un peu bizarre ce qu'on voit. Et conclusion, non, je n'ai pas beaucoup aimé ce spectacle.
C'était cette conclusion provisoire. Visiblement, on creusera encore le sujet. Marie-Josée Sirache.
C'est un spectacle dans lequel on rentre peu à peu. Je trouve qu'il faut un certain temps pour s'acclimater aux acteurs, à l'écriture de Duras, l'écriture théâtrale de Duras. Et en sortant, je me suis demandé, écrirait-on aujourd'hui une histoire pareille ? Qui, pour affronter le regard du lecteur ou du spectateur, sans faux-semblant, sans détour, pour mettre à nu comme ça... un texte d'une puissance érotique qui frôle l'interdit en permanence, puisqu'on parle d'inceste sans le nommer. Enfin, c'est une écriture en spirale, et je trouve que le parti pris de Hans-Peter Klaus respecte assez bien cette musicalité de la langue de Duras, et on y entre par à coup, on a un sentiment d'étrangeté, on tend l'oreille, on est un peu surpris. Parfois c'est un peu trop, c'est le tout début, je pense qu'ils vont se caler quand même. C'est une toute jeune actrice, je crois que c'est son premier rôle.
Sort de l'école pour le coup, comme dirait René
Vraiment. Et face à elle, elle a un acteur qui est chevronné, un peu plus rodé, qui a derrière lui pas mal de spectacles. Et je trouve que l'un dans l'autre, finalement ça s'équilibre et ce théâtre déploie des images. Alors il y a celles qui sont projetées parfois inutiles et parfois pas, en tout cas j'ai pas réussi à retrouver le film qui nous projette avec ces deux enfants sur la barque qui sont magnifiques.
C'est pas la nuit du chasseur, mais j'ai pensé, mais peut-être que je me trompe.
Alors oui, mais je n'en suis pas certaine parce que je l'ai vu il y a très longtemps. Mais et on entre dans la pièce comme par effraction, mais comme dans le texte, puisque on ouvre des portes au fur et à mesure et les secrets se défont. On les perçoit, ils se dessinent, et les rapports incestueux qui disent en même temps cet amour éternel entre un frère et une sœur sont là. Je trouve que finalement, c'est une pièce extrêmement délicate, extrêmement difficile, et qui s'en tire plutôt bien.
Bon, deux avis qui sont déjà différents. Moi qui n'ai pas encore vu le spectacle, j'attends un troisième au moins avis, celui de René Solis sur Agatha.
Non, il y a un double problème. Ah. C'est pas qu'il ouvre les portes, c'est que vous pointiez... au début, Philippe, c'est qu'il remplit le frigo. Il y a le syndrome de la peur du vide. Donc, il accumule les signes, les styles, les choses. Donc, on est la pantomime, le grotesque, la comédie, le cauchemar surréaliste avec les images projetées. Enfin, ça n'arrête pas. Il y a une multitude de propositions. Oui, on peut pas dire qu'il manque de propositions, d'idées, d'images, etc. Donc, un foisonnement. Mais ce foisonnement, il est d'autant plus gênant. Il est formellement plus ou moins réussi. Il y a des choses qui sont visuellement, esthétiquement tout à fait correctes. Mais il dissimule très mal quand même. Alors pour le coup, on parlait de vide tout à l'heure, mais là c'est une incapacité. Là, je suis pas du tout d'accord avec vous, Marie-José, à faire entendre ce qui est quand même la seule raison d'être de Duras et ce qui est magnifique chez Duras, c'est-à-dire la musique. Il n'y a pas un seul moment de musique dans le spectacle. Et moi, je suis sorti en me disant, mais c'est incroyable, on devrait presque, en fait, Duras, il faut le donner à des musiciens, il faut le donner à des professeurs de chant, il faudrait s'assurer avant de monter Duras de faire passer un examen de solfège aux gens qui prétendent le monter. Là, il y a quelque chose de terrible, c'est qu'on n'entend rien de la musique de Duras. C'est-à-dire qu'on entend, il joue, il n'arrête pas de jouer, de surjouer. Alors cet acteur autrichien, surtout qui parle parfaitement français, qui prononce tout très bien et qui n'arrête pas de jouer la situation. Il joue, comme vous disiez, il joue tout le temps et tout ce qui se dit, toute la compréhension du texte. Et donc on est dans un premier degré du jeu qui casse totalement, mais totalement la musicalité du texte. C'est inaudible, c'est vrai. Vraiment comme un concert où tous les instruments, dès le début, ne sont pas accordés. C'est faux, tout est faux. Et donc, on le ressent d'autant mieux qu'il y a 2 minutes à la fin du spectacle, quand ils sont tous les deux sur le canapé, tout d'un coup, ils parlent moins fort, il y a un peu moins de véhémence. Il y a beaucoup oui, ça n'arrête pas voilà, ils jouent à fond, quoi, avec leur trip. Alors, elle, un peu moins, mais elle est quand même... C'est dur ce qu'il lui fait faire, parce qu'elle est... pas dans une espèce de fausse retenue et en même temps de tension, ça va pas, elle arrive pas à jouer. Et à un moment, pendant 2 minutes, tout d'un coup, ils se parlent, ils sont dans leur Marcel un peu ridicule, voilà, l'allusion à l'enfance, les slips petits bateaux, ils ont 2 minutes où ils arrivent à tout d'un coup se parler avec un peu en rythme. Et c'est le seul moment du spectacle. Et je me suis dit, tiens, ah, peut-être que là, ils vont y arriver. Et puis non, au bout d'une minute, ça recommence à dérailler. C'est insupportable pour les oreilles. C'est quand on aime la musique et quand on aime la musique de Duras, il s'agit pas forcément de la faire de façon évanescente, détachée. Il y a beaucoup de façons de jouer Duras de façon musicale. Mais quand il n'y a pas cette musique, alors j'ai trouvé ça épouvantable, tout simplement.
Pas de musique, Marie-José Sirache?
Non, j'allais dire sergent-major plutôt que petit bateau, ou bon point.
Quand on a cité 3 marques, c'est bien.
Voilà, tout le monde est à égalité. Non, je trouve ça... Enfin, je trouve un peu sévère, mais vous avez raison, c'est votre point de vue.
Forcément, il a raison avec lui-même.
Non, moi, je suis plus... je ne suis pas indulgente. Je trouve que quand même, je disais au tout début, qu'on met un certain temps à entrer dans la pièce parce qu'on est un peu décontenancé par le jeu des acteurs, par cette façon qu'ils ont de se bouger, de s'adresser la parole ou de ne pas s'adresser la parole, de parler selon les temporalités. On est dans l'enfance, dans le souvenir, on est dans le temps présent. Donc il y a des allers-retours incessants comme ça. Mais justement, moi, je trouve que la musicalité finit par s'installer. C'est-à-dire qu'il y a un rythme, il arrive à trouver un rythme. Je pense qu'ils jouent encore un peu trop en force, mais ils vont peut-être un peu se calmer. Et que moi, je l'ai entendu, la pièce de Duras. Je trouve que il y a un côté presque même vintage dans la façon dont il la met en scène. Presque comme si on était il y a 40 ans, au moment où elle l'a écrit. La bande de son est étonnante parce qu'elle n'est pas dans la modernité, elle n'est pas contemporaine, elle est ailleurs, on sait pas trop où. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà, il y a des failles, j'entends ce que vous dites, mais je suis pas d'accord, mais je trouve ça intéressant quand même. J'en suis sortie plutôt en me disant, bon, il s'est passé quelque chose sur le plateau.
Philippe Chevillier.
Je pensais juste d'abord à la musique, ça m'a fait penser par moments au film de Jean Rollin sur les vampires un peu érotiques là, des années 70.
Un dialogue,
avec les musiques, ouais, un peu psychédéliques comme ça. Non, mais finalement, c'est pas si mal la musique. Mais Non, moi, cette histoire de musique, moi, je l'ai dit doucement, mais c'est vrai que je l'ai ressenti aussi. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup entendu le texte. Il y a aussi un autre moment, c'est quand il parle dans le micro, parce qu'il parle tout doucement aussi, où tout d'un coup, on réentend un peu les mots. Mais au-delà de ça, il y a aussi, parce qu'on peut se dire après tout, il apprend autrement, il veut peut-être même casser cette musique pour nous montrer autre chose, pour aller au fond de ce désir qui remonte à l'enfance. Et justement, bien qu'il y ait tous ces signes sur scène, j'ai pas retrouvé une sensualité, ce fruit défendu de l'amour incestueux qui doit nous être, ce côté sauvage, il est imposé en force, mais ça passe pas. Et moi, j'avoue que dès que je vois un acteur qui met un nez rouge sur scène au milieu d'une pièce de Duras, je peux pas. Donc vraiment, voilà.
Vous aimez pas Jean-Lambert Wild alors? Qui est toujours en clown.
Oui, enfin,
c'est autre chose. Bon, d'accord, non, je vous taquine, Philippe Chevillier. Non, mais la question aussi qu'on peut reposer, c'est celle que posait tout à l'heure René Solis. Est-ce qu'il faut faire passer un examen de musicologie au metteur en scène? Vous aviez vu Anatoly Vassiliev au Vieux Colombier, la musique à deuxième,
non,
avec la troupe du français?
Parce que ça, mais je suis sûr que Vassiliev.
Parce que c'est une drôle de musique.
Oui, mais il a le sens de la musique, Vassiliev, quand même.
Vous l'aviez vu, hein, Philippe Chevillier. J'avais été pénible, non?
J'avais un peu souffert, surtout dans la version initiale qui durait 40 minutes de plus que ce qui était prévu. J'avais un peu souffert. La musique était plus juste, mais disons qu'elle s'étirait un peu. C'est un spectacle que j'avais pas beaucoup apprécié dans un autre genre, mais c'était plus juste pour moi, c'est ça, c'est sûr. C'est plus juste que ce que. Et on peut dire, en même temps, c'est une curiosité. On s'ennuie pas, hein, ça c'est certain, mais je trouve que c'est.
C'est pareil, c'est quand même une pièce qui est une grande pièce, c'est une écriture qui doit normalement tout sauf laisser indifférent, mais c'est vrai qu'il y a une difficulté, et on en a régulièrement parlé ici, à monter Marguerite Duras depuis un certain nombre d'années, depuis qu'elle ne le monte plus elle-même, j'ai l'impression, presque. Alors, chacun a ses références. Moi, il y a eu des moments où Éric Vignier, quand il faisait la Pluie d'été à Hiroshima, ce montage de textes qui était notamment au Festival d'Avignon, avait touché quelque chose de très juste. C'est l'hypothèse qui n'est pas spécialement appréciée par la plupart des critiques, mais moi, que je tiens en haute estime, a fait à moitié, a fait un travail un peu compliqué, puisqu'elle avait mis ensemble La maladie de la mort et. Oups, et j'entends pas de mon micro. Et un autre texte, et du coup, c'était un peu compliqué, mais vos grands souvenirs de Duras sur scène récents.
Non, mais c'est l'hypote, vous avez raison, c'était un très beau spectacle.
C'est un très beau spectacle.
Absolument.
Problème sur la deuxième partie. Mais bon,
oui,
peu
mais
importe.
Moi aussi sur la deuxième partie. Mais c'est vrai qu'elle avait trouvé quelque chose dans le.
C'était la pièce d'Henry James traduite par Marguerite Duras. Merci de m'aider. La bête dans la jungle, qui était suivie par La maladie de la mort. Ça me revient. Enfin, on entendait évidemment Duras dans cette traduction d'Henry James, même si l'histoire était d'elle. René Solis, des conseils pour monter Duras?
Oui, non, je disais,
j'ai
cette espèce de certitude que c'est du théâtre musical, comme Michel Vinavert, d'ailleurs. Si on monte le sens, alors on a, oui, effectivement, on entend un dossier sur l'inceste frère-sœur, ce qui est épouvantable de faire ça à la pièce de Duras. Je veux dire, pas pire fidélité, enfin pire trahison, c'est horrible, je trouve. Je pense que il y a un certain nombre d'auteurs où effectivement il faut repasser par des choses de base de la qui sont le vocabulaire de la musique, qui sont des questions de rythme, de souffle, et prendre ça comme des partitions et jouer la partition et pas jouer. Si on commence à jouer l'histoire, alors
alors c'est ça le mot de la fin, pas mieux que
pas mieux.
Marie-Josée Sirage, Philippe Chevillier, pas mieux?
Pas mieux.
Bon, ça dit, vous l'avez vu donc lors des toutes premières représentations. Oui. On sait très bien que le spectacle vivant, c'est son charme, n'est-ce pas, évolue de soir en soir. Visiblement, il y a quand même du travail. Je vais peut-être attendre un petit peu avant d'aller au Café de la Danse pour voir Agatha de Marguerite Duras, mise en scène Hans-Peter Klaus jusqu'au 7 octobre, donc au Café de la Danse à Paris. Vous voulez dire quelque chose à Issa Tundoy?
Oui, Frédéric trouve, lui, le spectacle grandiose et accessible.
Bon, et puis j'ai lu d'autres commentaires, j'ai été recherché sur Twitter avec des gens qui sont peut-être plus sensibles à cette mise en scène. Donc effectivement, il y a différents types de réceptions, mais j'ai bien entendu faux nombreuses réserves. Et avant de conclure tout à fait cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. D'abord un rappel du jeu, alors non pas de vendredi soir, il n'y a pas eu d'émission vendredi soir. Alors remontons à jeudi, Grégoire Di Fiore, la question était...
Dans les anciens studios de quelle société de production et de distribution les locaux de la Fémis sont situés?
Et la réponse?
Pâté.
Les studios Pâté. On fait gagner ce soir des invitations pour cette soirée, événement dans les yeux de Don DeLillo, rencontre avec l'auteur américain, au moment où sort en France son dernier roman, Zéro K, dont nous parlerons d'ailleurs bientôt dans la dispute. Cette soirée a lieu lundi prochain, 18 septembre, à 20h30 au Théâtre de la Colline à Paris. Pour gagner des invitations, à quelles questions faut-il répondre, Grégoire?
Quel réalisateur a adapté au cinéma le roman Cosmopolis de l'écrivain américain?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer par courriel et uniquement par courriel à une seule adresse. Attention, auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de cette émission sur cette page. Vous pouvez préparer vos commentaires pour l'émission de demain à poster sur la page Facebook La Dispute FC en amont dès maintenant. Vous pouvez aussi attendre le direct pour commenter en suivant le compte Twitter Dispute FC. Demain donc à 19h, une dispute consacrée à la musique en compagnie de Sophie Rosemont, Olivier Lam et Joseph Gosselin. Notre affiche, le nouveau disque de Tyler, The Creator, deux anthologies électro-soma du groupe B12 et puis Twin Peaks, trois fois. Oui, pas moins de trois CD ont accompagné la saison 3 de cette série.